grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edowani wa makaran.
Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenibiru.
Halud Mouni.
Chenibiri. Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.
Le grand dialogue.
Madame, monsieur, bonsoir. Nous sommes mardi 9 juin 2015. Bienvenue à cette émission et merci de nous recevoir chez vous si vous nous écoutez à travers nos stations partenaires. Aujourd'hui, nous avons décidé de faire le point sur la vaste campagne de distribution gratuite donc de moustiquaires imprégnés que vous avez dû constater auprès donc de chez vous. Nous sommes donc avec deux invités, Yacouba Diré, chargé de programme à PSI Mali, et également là avec nous Dr Koulibaly Madina Konaté, directrice adjointe du programme national de lutte contre le paludisme. Je suis Famoussa Sidibé, Mamadou Ouattara est à la technique. Bienvenue. Selon le ministère malien de la Santé et de l'Hygiène publique, en 2013, le nombre total des cas de paludisme enregistrés dans les établissements de santé était de 2 095 172 cas, avec 1643 décès. Les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes étaient les couches les plus affectées. L'Organisation mondiale de la santé estime que entre 2000 et 2012, la mortalité liée au paludisme a diminué de 42% dans le monde et de 49% en Afrique. Pendant la même période, le taux de mortalité a baissé de 54% donc chez les enfants de moins de 5 ans en Afrique de l'Ouest. Alors, cette campagne de distribution de moustiquaires imprégnés qui a donc commencé au Mali, et en quoi est-ce que cette campagne sera-t-elle efficace, Madame Koulibaly Madina Konaté du PNLE?
Bonsoir. Merci de nous avoir invités sur ce plateau au nom de Monsieur le ministre de la Santé. Nous vous remercions pour nous permettre quand même de nous exprimer et vraiment de mieux édifier la population de Bamako et tout le Mali entier, à l'intérieur comme les Maliens de diaspora. Une campagne de couverture universelle nous permet toujours de, comme stratégie majeure de lutte contre le paludisme, de protéger la population contre les piqûres d'insectes. Et il est prouvé que quand dans une population en général on atteint 80% de couverture, cela permet de réduire le décès d'enfants de moins de 5 ans de plus de 20% et le nombre d'épisodes de paludisme de plus de 50% dans cette population. D'où l'intérêt de cette stratégie en couverture universelle.
Alors, je peux peut-être me tromper, mais c'est du jamais vu au Mali, une telle campagne de distribution qui va jusqu'à dénombrer le nombre de personnes dans une famille et leur remettre les moustiquaires de façon personnelle. Est-ce que je me trompe, Yacouba Diré, si je dis que c'est une première au Mali?
Ok, bonsoir. Je vous remercie. Vraiment, l'occasion nous est donnée vraiment d'édifier en tout cas la population. Je joins ma parole au représentant du Programme national de lutte contre le paludisme. Je veux une toute petite précision. Moi, c'est Dr Diré Yacouba. Je suis le directeur adjoint des programmes à PC Mali. Par rapport à la stratégie est définie par le ministère de la Santé à travers sa structure technique, qui est le Programme national de lutte contre le paludisme. Et sur le plan mondial maintenant, pour faire une bonne campagne, il faut nécessairement passer par des étapes. Et l'une des étapes essentielles, c'est vraiment le dénombrement. Parce qu'on ne peut pas donner les moustiquaires à la population sans connaître le nombre de populations. C'est ce qui a amené l'équipe technique donc à adopter cette stratégie, à aller famille par famille pour pouvoir connaître la population exacte du district de Bamako.
Alors, est-ce que c'est une première ou bien c'est une campagne qui a déjà eu lieu?
Au niveau du Mali, ce n'est pas une première parce que nous avons déjà effectué la campagne au niveau des régions de Sikasso, Ségou, Mopti, Kaï, Koulikoro. Et nous sommes maintenant au niveau du district de Bamako. Donc, cela veut dire que nous avons beaucoup d'expérience en matière de campagne. Mais la campagne de couverture universelle, c'est la première fois qu'on le fait à Bamako.
À Bamako. Voilà. D'accord. Alors, nous allons donc du côté du PNLE. Madame, docteur, vous êtes chef de division planification, suivi et évaluation et directrice par intérim donc du PNLE. Durant combien de temps est-ce que ces moustiquaires sont, resteront efficaces après leur distribution?
La durée de vie d'une moustiquaire va de 3 ans à 5 ans. En général, sur l'emballage, ça s'écrit toujours. Donc, en moyenne, c'est 3 ans. Et le décompte commence à partir de...
Du jour de l'ouverture.
Du jour de l'ouverture. Dès que ça sort de l'emballage, le décompte, le compte à rebours va commencer en
donc,
ce
3
moment.
3 ans en moyenne.
3 ans.
Alors, une chose est de distribuer les moustiquaires, mais une autre chose est de les utiliser. Comment est-ce que vous allez vous assurer que ces moustiquaires vont être utilisés?
À la distribution, avant de vous répondre à cette question, permettez-moi de compléter ce que Jiré vient de dire. Ce n'est vraiment pas une première, comme il dit, pour le dénombrement, parce que pratiquement au Mali, c'est depuis 2007 qu'on a fait la première campagne de couverture. Mais là, c'était des campagnes ciblées, les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Mais c'est à partir de 2011 que la couverture universelle, la notion de couverture universelle, c'est de pouvoir donner le moustiquaire pour tout âge sur la base d'une moustiquaire imprégnée pour deux personnes. Et comme il l'a dit, on comptait sur 8 666 667 moustiquaires en 2011 pour couvrir tout le Mali. Mais nous n'avons pas pu mobiliser toutes ces moustiquaires. Du coup, on a fait un plan d'action progression région par région qui nous a permis de couvrir les régions comme il vient de la cité jusqu'à arriver à Bamako aujourd'hui.
D'accord. Ouais. Alors, vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Est-ce que vous vous assurez que ces moustiquaires sont employés comme il faut?
Pour cela, il y a des conseils qui sont donnés quand nous distribuons les moustiquaires. Mais après les campagnes, en général 6 mois, 8 mois, sinon 1 an après les campagnes, il y a des enquêtes nationales aussi qui se font pour voir l'utilisation de ces moustiquaires. Pour exemple, quand on a fait la campagne de 2007 en 2008, il y a eu l'enquête de possession et d'utilisation des moustiquaires en son temps. En 2010, le Mali a fait une enquête de parasitémie et d'anémie pour compléter les résultats de l'EDS. Cela nous a permis de connaître la possession. Au moins, il y a combien de ménages qui possèdent une seule moustiquaire et combien de personnes y dorment chaque soir parmi les femmes enceintes et les enfants. L'enquête démographique de santé et de population du Mali qui s'est déroulée en 2012-2013 nous a permis de savoir que nous sommes à 84,84% de possession de moustiquaires, c'est-à-dire au moins il y a une moustiquaire imprégnée d'insecticides dans les ménages, dans 84,4% des ménages.
D'accord.
Voilà.
Merci beaucoup, madame. Alors, docteur Diré, vous êtes donc le directeur adjoint du programme PSI. Aujourd'hui, est-ce que vous aussi, au niveau de PSI, vous vous assurez de l'utilisation adéquate donc de ces moustiquaires?
Oui, ok. Comme vient de le dire docteur Koulibaly Madina, nous avons une stratégie de communication pour vraiment nous assurer de l'utilisation de ces moustiquaires. Vous pouvez le remarquer, avant même le dénombrement, après le dénombrement, pendant la distribution et après la distribution, les radios de proximité vont véhiculer des messages.
Et nous avons choisi, par aire de santé, 5 radios qui vont donner l'information à la population pour qu'ils puissent utiliser les moustiquaires à tout temps. Donc nous avons vraiment des stratégies de communication, non seulement avec les relais qui sont en train de faire la distribution des moustiquaires, mais également avec les radios de proximité et même à la télé, vous pouvez le remarquer, il y a des émissions qui passent pour inciter les populations à dormir sous moustiquaires.
Alors, merci beaucoup, docteur Diré, docteur Yagouba Diré, directeur adjoint du programme PSI. Alors, madame, vous êtes chef de division planification, suivi et évaluation, et directrice par intérim donc du PNL. Aujourd'hui, c'est les enfants de moins de 5 ans qui sont plus ciblés, les femmes enceintes. En quoi cette couche est-elle vulnérable?
Bon, par rapport à la lutte contre le paludisme, c'est les couches les plus vulnérables. Mais par rapport à la campagne de couverture universelle, ce n'est pas ciblé pour les femmes enceintes et les enfants. Ça, c'était la première campagne. C'était la première campagne, comme je l'ai dit, en 2007. C'était ciblé. Mais aujourd'hui, depuis 2011, nous sommes dans la lancée de la couverture universelle. C'est toute la population, tout âge confondu, sur la base d'une moustiquaire pour deux. Mais pour la vulnérabilité, une population vulnérable est celle qui paye le plus lourd tribut pour une pathologie donnée. Je m'explique. Quand tu vois les statistiques d'année en année, tu vas te rendre compte que les enfants de moins de 5 ans, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas encore célébré leur 5e anniversaire, vous trouverez qu'il y a plus de cas parmi eux et le maximum de décès se trouve dans cette couche, tranche. La femme enceinte, de par son statut, parce que la grossesse est un état où c'est le fœtus, c'est comme un corps étranger qu'elle héberge, mais Dieu a su faire. Pendant la grossesse, il y a l'immunité de la femme qui va baisser pour qu'elle accepte, qu'elle supporte ce bébé en elle, voilà, jusqu'à l'accouchement. Cela fait qu'elle devient fragile, elle devient sujette aussi à des formes graves, souvent de paludisme. D'où la notion de couche vulnérable, parce que ces couches payent le plus leur tribut de la maladie.
Alors, tout ceci rôde donc autour du paludisme, tout ceci évoque donc la lutte contre le paludisme. Où est-ce que nous en sommes au Mali avec cette lutte contre le paludisme, docteur Dié?
Par rapport à la lutte contre le paludisme, je vous avoue que c'est une question, en tout cas, bon, je vais répondre, mais c'est une question auquel vous devez adresser ça au programme. Comme nous sommes des partenaires et nous les appuyons, nous savons
fortement.
Qu'on fait fortement, nous savons qu'ils font le bon travail. Nous faisons le bon travail. Toutes les stratégies de lutte contre le paludisme au Mali aujourd'hui sont appliquées. Nous sommes aujourd'hui avec la distribution des moustiquaires imprégnés en couverture universelle. Mais en dehors de ça, vous savez qu'il y a les moustiquaires au niveau des structures de santé, comme elle l'a dit, pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 1 an. Mais également, vous pouvez le constater, chaque année également, il y a ce qu'on appelle la pulvérisation intradomiciliaire qui se fait dans certains districts. Donc, il y a toutes les stratégies, en tout cas, qui sont mises en œuvre aujourd'hui au Mali pour lutter contre le paludisme. Voilà.
Alors, nous allons observer quelques secondes de pause avant de poursuivre avec la deuxième partie de cette émission.
Vous écoutez Studio Tamani. Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Les réseaux sociaux à travers notre compte Twitter et notre page Facebook pour donc réagir à cette émission. Allez donc sur ces deux réseaux. Alors nous avons également notre site web à votre disposition pour réagir à cette émission ou bien la réécouter si vous le souhaitez. après donc cette diffusion. Alors nous sommes dans la seconde partie de cette émission consacrée à la campagne de distribution universelle donc de programme national de lutte contre le palu et également son partenaire PSI Mali. Nous sommes avec deux invités pour cette émission. Alors nous allons voir avec eux les conséquences économiques et sanitaires donc du palu après donc cette campagne. Est-ce que nous pouvons mesurer les conséquences sanitaires avec vous, madame docteur Koulibaly Madina Konaté, donc de la Direction nationale de lutte contre le palu, le paludisme, du programme national de lutte contre le paludisme?
Ok, merci. Quand nous essayons de voir toujours les statistiques, le paludisme va être le premier motif de consultation au niveau de nos structures de santé. Chaque année, on est pratiquement entre 38 à 42% de motifs de consultation. Et quand on essaie de voir l'impact sur l'organisme de ce paludisme, le décès, quand tu prends la totalité des décès et le nombre de cas de décès attribuables au paludisme parmi ceux-ci, on se rend compte aussi que le paludisme va venir souvent en tête pour les décès. Donc, devant cette situation, le paludisme devient vraiment un réel problème de santé publique. Un enfant ou un travailleur paludien, il sera absent en classe ou à son lieu de travail. Quand on est absent à son lieu de travail, ça fait quand même des ressources en moins. Et quand on est absent en classe, ça fait quand même des journées d'apprentissage perdues. Et pire que ça, et quand on fait des formes graves à l'enfance, ça peut aller jusqu'à ce que l'enfant soit déficient mental. En tout cas, ça va agir sur le coefficient intellectuel de l'enfant.
Alors, quelles sont les périodes à risque au Mali?
Le Mali est un pays endémique. Et toute l'année, nous enregistrons des cas de paludisme. Mais c'est pendant l'hivernage que nous enregistrons plus de 60% de nos cas. Et là, c'est du mois d'août au mois de novembre. Et s'il y a forte pluviométrie, jusqu'en fin décembre, nous enregistrons plus de 60% des cas de paludisme pendant cette période.
Voilà. Alors, est-ce que le milieu rural est-il différent du milieu urbain, docteur Diré, de PSI?
Par rapport à la différence entre le milieu rural et le milieu urbain, il faut relativiser. Au Mali, nous avons des zones où le paludisme sévit tout le temps, que ce soit en milieu rural ou en milieu urbain. Si je prends l'exemple de la région de Sikasso, la région de Sikasso est une région où la pluviométrie est très longue. Donc là, il n'y a pas question de milieu urbain et milieu rural. Toute la population est touchée pendant le même temps. Mais si vous venez à Bamako, on constate, les études ont montré que le paludisme n'est pas aussi très grave que comparativement à la région de Sikasso ou la région de, par exemple, de Mopti. Vous voyez, par exemple, à Sigou, les zones de barrage où il y a permanemment de l'eau, où toutes les conditions sont réunies pour la multiplication, en tout cas des moustiques, et surtout du vecteur qui transmet le paludisme, qui est l'anophèle. Donc, cette différence entre milieu rural et milieu urbain, il faut relativiser. Nous avons des zones au Mali où, en tout cas, l'endémicité est la plus élevée. Mais si, à l'intérieur même d'une même région, vous pouvez voir souvent qu'il y a des différences. Si je prends l'exemple de la région de Kaï, il y a des régions, par exemple, comme Nioro-Yélémané, où les conditions ne sont pas très bien réunies, tandis qu'il y a des zones où la pluviométrie est, en tout cas, plus longue. Donc, vraiment, c'est en fonction, en tout cas, des critères bien spécifiques que le paludisme sévit. Comme je l'ai dit, en fonction de la pluviométrie, en fonction, en tout cas, de la présence, en tout cas, de conditions géographiques, donc qui détermine vraiment la prédominance du paludisme.
Merci beaucoup, docteur Diré du PSI. Alors, madame, vous êtes donc au Programme national de lutte contre le PALU, PNLP. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des personnes qui sont immunisées contre le PALU?
Le paludisme est une maladie parasitaire du sang. Elle n'est pas immunisante. Mais quand on est dans une zone d'endémie stable, on est prémuni. On parle de prémunition. Comme vous et moi, nous sommes piqués par les moustiques, comme il a dit, l'anopheles femelle. Quand on est piqué par l'anopheles femelle infestée, nous faisons la pathologie, mais l'organisme va garder en mémoire. Donc l'organisme sait tenir et se défendre. Mais une fois que vous quittez cette zone d'endémie, vous vous retrouvez dans une zone hypo-endémique ou indemne de paludisme, au bout de 6 mois, l'organisme perd.
Se défonce.
Voilà. Entre guillemets, cette immunité. Parce que c'est très précaire et vous devenez comme n'importe quel individu de cette zone indemne, donc très susceptible à faire le paludisme et surtout des formes graves parce que l'organisme n'a plus en mémoire cette défense.
D'accord. Voilà. Alors, des explications très édifiantes donc concernant le PALU aujourd'hui. Ce débat est consacré donc à la campagne de lutte, de distribution, pardon, de moustiquaires, campagne universelle, comme l'a dénommé madame Koulibaly, Madina Konaté, chef de division donc au niveau du programme national de lutte contre le paludisme. Alors, docteur Diré, vous êtes du PSI. Aujourd'hui, est-ce que vous avez des campagnes audiovisuelles qui accompagnent cette campagne de distribution?
Oui, merci pour la question. Nous avons des campagnes audiovisuelles. Comme vous pouvez le remarquer, le début même de la campagne a commencé avec le lancement. Et le lancement, c'est une occasion pour les plus hautes autorités. Vous avez le ministre de la Santé qui a passé des messages de sensibilisation à l'intention de l'ensemble de la population. En plus de cela, à la télé, vous pouvez le constater, il y a des émissions à la télé qui apparaissent, qui sensibilisent la population. Il y a des sketchs également. Donc, nous avons beaucoup d'occasions, des supports.
Que dites-vous dans ces campagnes?
Dans ces campagnes, d'abord, nous insistons la population à utiliser les moustiquaires. C'est-à-dire, ne pas garder les moustiquaires à la maison. Attacher les moustiquaires en tout temps. Il faut qu'ils dorment sous les moustiquaires. Parce que ce que nous avons constaté, c'est que souvent, vous pouvez le voir, après la pluie, les gens peuvent dire, bon, il n'y a plus beaucoup de moustiques. Or, les quelques moustiques qui existent peuvent transmettre le paludisme. Donc, il faut qu'on dorme, il faut qu'ils dorment tout le temps, en tout cas, sous la moustiquaire. Ensuite, il y a l'entretien de la moustiquaire également que les populations doivent comprendre. L'entretien de la moustiquaire, comment laver la moustiquaire. Il ne faut pas laver la moustiquaire avec des produits qui détruisent l'insecticide, tels que nous le savons, nos savons traditionnels. Les savons sous forme de poudre.
Que conseillez-vous?
Ce que nous conseillons...
À l'eau simple?
Non, ils peuvent laver la moustiquaire avec les savons que nous disons savons Koulikoro ou équivalents. Et de laver ça de moins en moins.
Sans détergent. Alors.
Sans détergent. Et également étaler la moustiquaire à l'ombre pour que le soleil aussi ne détruise pas l'insecticide. Ça, ce sont des conseils que nous donnons à la population, non seulement à travers la radio, mais également à travers la télévision, pour que la moustiquaire puisse durer. Comme Dr Koulibaly l'a dit, une moustiquaire qui doit faire 3 ans, si vous lavez cette moustiquaire ou vous l'entretenez très mal, au bout d'une année, vous n'avez plus de moustiquaire. Or, vous savez, la moustiquaire, c'est vrai que bon... Elle est disponible aujourd'hui, mais la moustiquaire quand même a un coût. Et donc, nous devons encourager les populations à bien entretenir ces moustiquaires-là pour qu'elles puissent durer aussi longtemps.
D'accord. Merci beaucoup, docteur Diré de PSI. Alors, madame Koulibaly, Madina Konaté, vous êtes du Programme national de lutte contre le PALU. Aujourd'hui, est-ce qu'il arrive que vous menez des campagnes auprès des hommes, puisqu'on sait que c'est les hommes qui sont réticents à l'idée d'utiliser les moustiquaires? Que leur dites-vous aujourd'hui?
Ok. Comme mon collègue de PSI vient de le dire, La communication, le suivi, l'évaluation et la recherche sont vraiment des stratégies transversales qui accompagnent les stratégies majeures. Les autres stratégies sont dites majeures. C'est vraiment le socle. Comme il vient de le dire, il y a cette communication de masse, à travers les masses, mais il y a la communication interpersonnelle qui se passe. Donc, il peut y avoir des communications ciblées par groupe, selon les intérêts, mais la communication de masse, c'est vraiment pour tout le monde. Pour tout le monde. En ce qui concerne les hommes spécifiquement, ce sont nos chefs de famille, ce sont les décideurs. Une fois qu'ils comprennent le bienfait de la chose et comment faire, il devient facile en général dans les familles de les utiliser et surtout de ne pas partager ces moustiquaires et de les garder que pour les adultes ou autres. Et c'est comme il l'a dit, toute l'année pratiquement vous allez voir sur la télé nationale qu'il y a des messages qui passent. Il y a même souvent des enfants, il y a des ambassadeurs, des vedettes qui sont nos ambassadeurs qui nous aident à faire passer ces messages, comment les attacher, comment les laver, et on fait intervenir même les enfants pour dire que en toute saison, toute l'année, nous devons dormir sous ces moustiquaires, et en précisant que ce n'est pas la seule façon. Malgré tout ça, il y a les autres stratégies à ne pas oublier. Et quand on tombe malade, quand un enfant a de la fièvre, c'est de l'amener le plus tôt que possible au niveau d'un centre de santé le plus proche.
D'accord. Alors, quelque chose qui va peut-être les pousser les hommes à utiliser donc les moustiquaires imprégnés, à dormir sous moustiquaires imprégnés. C'est peut-être le coût. Est-ce qu'on peut savoir avec vous, madame, le coût d'un traitement de palu?
Le coût d'un traitement, d'abord, est-ce que le paludisme est classé simple ou grave?
Le plus grave.
Quand c'est un paludisme simple, ça se traite avec ce qu'on appelle la CTA. C'est des comprimés qui sont des combinaisons thérapeutiques de deux molécules antipaludiques, l'artéméter, la lumefantrine ou l'artésinate, amodiaquine et autres. Et là, pour les enfants de moins de 5 ans, c'est gratuit. C'est vraiment gratuit. Et fortement subventionné pour les adolescents de 6 ans à 13 ans, pour les sinon jusqu'à 14 ans, et pour les adultes à partir de 15 ans, jusqu'à 100 ans et plus, pourquoi pas.
Amenons les hommes à dépenser. Dites-nous un coût.
Si je le dis comme ça, parce que le coût est national, en tout cas, dans les structures publiques et parapubliques, le coût est national. Ça va aller de 500 et quelques jusqu'à peut-être 700 francs, parce que je n'ai pas les coûts devant moi, mais le coût est fixé par le ministère de la Santé. On achète à combien? Au niveau de la PPM, qui est la centrale d'achat, les dépôts répartisseurs de cercle vont céder au CESCOM à combien, et les CESCOM doivent vendre à combien. Le ministre de la Santé fixe cela. Quand c'est le paludisme grave, c'est soit traité avec la quinine injectable en perfusion de glucose 10%, c'est soit l'artéméter ou l'artésinate. Donc, dans les cas de paludisme grave ou compliqué, il y a plusieurs choses qui peuvent entrer en ligne de compte.
C'est
pourquoi je ne voudrais pas donner un coût en moyenne. Ça peut aller de 3 000 francs jusqu'à peut-être 20 000 francs, ça dépend. Quand un malade vient avec l'état du patient, le malade, un enfant qui vient avec une forte parasitémie, qui a convulsé, qui a déjà des complications neurologiques ou rénales, eh bien, le coût va être important.
Du simple au double. Hein?
Important. Voilà.
D'accord. Merci beaucoup, madame. Nous allons observer quelques secondes de pause et nous reprendrons le cours de cette émission avec la dernière partie.
Une réaction.
Un avis.
Un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Studio Tamani. N'oubliez surtout pas de faire un tour sur notre site web www.studiotamani.org. Aujourd'hui, le Grand Dialogue réfléchit sur la campagne universelle de distribution de moustiquaires qui se déroule actuellement à Bamako. Alors, nous sommes avec deux invités et cette étape est donc consacrée à l'état de la recherche contre le paludisme. Où est-ce que nous en sommes, docteur Diré, de PSI Mali?
Bon, par rapport à la recherche contre le paludisme, je vais dire ce que j'ai lu dans les à travers l'information et également les sites web.
Vous n'oubliez pas qu'à ça.
Oui, non. En fait, nous avons une structure très renommée qui est le Malaria Training Research Center. Avec le professeur Ogobara qui s'occupe de la recherche au Mali. Et je sais qu'ils sont en train de faire
difficile
beaucoup de choses.
Difficile à mobiliser, je le rappelle. Le professeur est très difficile à mobiliser. S'il nous écoute, l'invitation est lancée.
Oui, je comprends. Sinon, ils sont en train de faire un excellent travail, en tout cas en matière de recherche contre le paludisme. Et je sais qu'ils sont en train de faire des études même sur le candidat vaccin au Mali. Mais je ne peux pas parler à leur place. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que nous concentrons nos efforts sur la prévention. La prévention contre le paludisme. Et la prévention, comme nous l'avons dit, l'une des premières stratégies, aujourd'hui, c'est la distribution des moustiquaires. Imprégnés en campagne universelle et en routine. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et avec cette stratégie, nous sommes sûrs que nous allons pouvoir diminuer de beaucoup l'incidence du paludisme. Et comme... Le représentant du directeur du PNLP l'a dit, les dernières études qui ont montré que l'incidence du paludisme a beaucoup diminué au Mali, surtout l'incidence du paludisme grave. Donc nous sommes avec la prévention à travers les moustiquaires imprégnés. Il y a d'autres stratégies, mais en dehors de ça, je sais que, comme je l'ai dit, le MRTC est en train de faire de la recherche également sur plusieurs aspects, non seulement sur l'efficacité des médicaments, mais même le MRTC travaille avec d'autres laboratoires internationaux que je connais bien sûr, sur en tout cas ces questions de vaccins.
D'accord. Voilà. Alors, ce n'est pas pour faire marginaliser une maladie par rapport à une autre, mais on a vu de la mobilisation assez massive autour donc du virus Ebola, le virus Ebola qui a trouvé à qui on a trouvé des vaccins, même si ces vaccins-là sont expérimentaux aujourd'hui. Aujourd'hui, comment comprendre ce désintérêt pour le palu, madame?
Bon, il n'y a pas de désintérêt pour le paludisme. Avant de vous répondre à cela, parce que Docteur Djiré n'était pas dans son rôle de pouvoir vous répondre par rapport à la recherche. C'est mon partenaire. Donc, la recherche se trouve à plusieurs niveaux. Il y a la recherche fondamentale que le professeur l'équipe du professeur Ogobara Doumbo fait plus. Ils sont dans l'opérationnel, mais c'est le fondamental. Le rôle du programme et d'autres institutions, c'est la recherche opérationnelle. Nous en faisons avec beaucoup d'institutions, que ce soit le MRTC, comme il a dit, l'INRSP, il y a le CREDOS, il y a toujours dans l'INRSP la division médecine traditionnelle qui fait
qu'on oublie souvent.
Qu'on ne devrait pas oublier, qui travaille beaucoup dans ce domaine et beaucoup d'autres institutions, bien sûr. La recherche fondamentale se fait pour montrer l'évidence base de quelque chose. C'est grâce à cette recherche fondamentale que nous avons su on était jusqu'où on était arrivé dans la résistance à la chloroquine, par exemple, au Mali, en Afrique. Les MRTC a contribué pour le Mali, en Afrique et même ailleurs. Et quand on a su cela, c'est avec ces résultats de l'équipe du professeur Ogobara Doumbo et c'est sur cette base de recherche des professeurs éminents comme le professeur Ogobara Doumbo, à travers tout le monde, il y a des groupes d'experts. Quand on dit l'OMS dit cela, c'est ces groupes d'experts qui travaillent pour mettre des fourchettes pour nous, pour que nous puissions prendre la bonne marche et avoir les bons résultats. C'est comme ça que nous avons abandonné la chloroquine avec son taux de résistance élevé. Nous sommes venus aux combinaisons thérapeutiques à base de dérivés d'artémisinine. Pour la prévention chez la femme enceinte, on utilise la sulfadoxine pyrimétamine. Comment on est arrivé là? C'est sur la base des recherches de cette équipe aussi qui nous a permis de savoir à partir du 4e mois de la grossesse, quand vous commencez à donner, on diminue le risque de paludisme chez la femme, chez cet enfant qui va naître. Donc on diminue du coup le risque d'avortement, de petits pois, de naissance, d'anémie et autres chez la femme. Et à combien de doses? Le vaccin n'est pas...
Une priorité?
C'est une priorité. Mais vous parlez de maladie à virus Ebola. C'est une maladie virale. Le paludisme est une maladie parasitaire.
Quelle est la différence?
Il y a une grande différence. Les virus donnent des pathologies virales. Ça, c'est une famille à part. Tu as des bactéries, les agents pathogènes, comme tu as des parasites. Un virus, quand il sort d'un organisme, en général, il peut mourir facilement. Mais quand il est au sein d'un organisme, il peut transformer tout pour lui-même et très fragiliser
la personne.
La maladie à virus Ebola est très fulminante, mais la rougeole est une maladie virale. Tu peux avoir une méningite virale, ainsi de suite. Mais pour le cas du paludisme, ce parasite a un comportement qui fait aujourd'hui que tous les candidats vaccins utilisés, arrivés à un certain stade, ils se rendent compte qu'il y a de telles choses à résoudre. Il y a des vaccins qui sont avancés, mais on n'a pas aujourd'hui de vaccin pour qui on peut dire quand on va l'utiliser, il y aura 80% de protection, il y aura ceci, et c'est chaque 3 ans qu'il faut le faire. Aujourd'hui, nous n'en sommes pas là. C'est vraiment lié à l'agent pathogène, à son comportement, à son intelligence.
Donc, c'est pas par manque de mobilisation.
Non.
Alors, en quoi est-ce que la médecine traditionnelle est-elle différente aujourd'hui? Est-elle efficace, plus efficace que d'autres médecines?
Vous savez,
en termes de lutte contre le paludisme,
la médecine traditionnelle utilise quoi? C'est la nature. N'importe quel médicament, quand on parle de dérivés d'artémisinine, ça vient d'un arbre ou d'un arbuste. La médecine traditionnelle, c'est cette recherche pour... Je ne suis pas pharmacienne. C'est cette recherche pour connaître la valeur. La valeur, que ce soit de guérison, que ce soit de soulagement, de tout produit dans cette nature qui puisse aider à faire avancer cette médecine conventionnelle. C'est les arbres, c'est les algues, c'est les champignons, et autres.
En fait.
Tout est lié. Tout est lié.
D'accord.
Donc, chez nous-mêmes, il y a des arbres qui ont quand même des effets antipaludiques qui sont connus, qui sont produits aujourd'hui, qui sont en gélules, qui sont en comprimés, qui sont sur la liste nationale des médicaments essentiels et qui se trouve en pharmacie. En pharmacie.
D'accord.
Voilà.
Merci beaucoup, madame. Et mes excuses pour l'insistance par rapport à certains détails.
Alors, je vous en prie.
Docteur Diré, vous êtes à PSI Mali. Aujourd'hui, quel est votre plus grand défi en termes de lutte contre le palu à PSI?
Ok. En termes de lutte contre le paludisme à PSI, les défis que nous avons, c'est vraiment appuyer le ministère de la Santé. Comme vous le savez, nous sommes un partenaire, en tout cas une structure, en tout cas d'exécution, et en collaboration avec le PNLP. Nous appliquons les stratégies et notre défi aujourd'hui, c'est de faire en sorte que toutes les stratégies en matière de lutte contre le paludisme puissent être vraiment, en tout cas, appliquées au Mali. Pour cela, nous apportons notre concours en termes de financement, en termes d'appui technique. Et les défis que nous avons, comme vous le voyez, nous avons commencé une campagne de couverture universelle depuis 2011 dans la région de Sikasso. Mais c'est cette année que nous sommes arrivés à Bamako. Cela veut dire qu'il y a, en tout cas, beaucoup d'étapes à franchir.
en passant par la mobilisation des ressources, l'aspect, les aspects de préparation technique, tout. Donc nous faisons en sorte de venir en aide au gouvernement à travers le PNLP pour que, en tout cas, on puisse avoir les ressources nécessaires, on puisse avoir les compétences nécessaires, on puisse avoir tout ce que nous voulons pour pouvoir, en tout cas, utiliser ces stratégies-là. Donc, vraiment, nous sommes avec le gouvernement et nous sommes prêts, vraiment, chaque fois que nous sommes sollicités, à venir en appui pour pouvoir, en tout cas, être efficaces en matière de lutte contre le paludisme.
Alors, merci beaucoup, docteur Diré. Madame, je reviens vers vous. Cette émission, le studio Tamani, est très écoutée en milieu rural. Aujourd'hui, les populations ont besoin de savoir. Vous avez évoqué tout à l'heure tout le mérite qui revient à la médecine traditionnelle. Quels sont les arbres aujourd'hui que vous connaissez et qui sont efficaces par rapport à la lutte contre le paludisme? Si vous pouvez même dire les noms en bambara.
Bon. Je ne pense pas que je vais m'aventurer loin dans ça. Et l'équipe du professeur Drissa Diallo serait mieux placée et apte si il m'écoute. Ce serait l'occasion de les inviter. Vous allez être agréablement surpris de tout ce qu'ils sont en train de faire. Mais vous avez le malarial. Le nom de vente, il y a le malarial qui est déjà vraiment fin prêt en pharmacie. Le malarial est en pharmacie.
C'est à base de quoi?
Les produits chimiques, je ne m'aventurerai pas parce que quels sont les arbres qui sont utilisés, je ne pourrais m'aventurer vraiment dans cela. Voilà. Je préférerais que ce soit quelqu'un de l'équipe du DMT qui puisse largement en parler.
Alors, quel genre de souffrance est-ce que les femmes rurales subissent à cause du paludisme, madame?
Une femme est égale à une femme pour moi, qu'elle soit du milieu rural ou du milieu urbain. Mais qu'est-ce qui se passe en milieu rural, même en milieu urbain? De par notre culture et l'organisation sociétale, je n'ai rien contre. La décision ne nous revient pas. Elles, quand elles ont besoin de soins, même si elles souffrent, elles ne peuvent pas venir d'elles-mêmes au centre de santé. Parce que la décision se prend ailleurs. Peut-être même que ce n'est pas le mari. C'est le chef de famille qui prendra la décision de venir. Elles sont femmes. Elles sont mères. Tu as un jeune enfant de 2 ans, tu es enceinte pour un enfant que tu attends. Quand tu n'es pas protégé contre le paludisme, l'enfant qui est en ton sein risque des problèmes comme toi-même. Le tout petit que tu traînes avec toi est susceptible à la maladie. Moi, je pense que par rapport à la lutte contre le paludisme, elle est vraiment au centre de nos préoccupations parce qu'elle est vulnérable pour quand elle est en grossesse, elle est vulnérable quand c'est l'enfant qui est malade, elle est vulnérable quand c'est le mari qui est encore malade. Voilà.
Merci beaucoup, madame. Un dernier mot peut-être pour PSI. Un dernier mot, docteur Diré.
Pour appuyer ce qu'elle vient de dire, c'est que ce que nous faisons, c'est œuvrer pour soulager la souffrance des populations. Et vous le savez aussi bien que moi, que la femme constitue, en tout cas, le moteur, en tout cas, de la famille. Tout tourne autour de la femme, comme on a l'adage de le dire, quand le mari tombe malade, c'est la femme, quand l'enfant tombe malade, c'est la femme. Donc, vous voyez, même en matière de lutte contre le paludisme, les stratégies ont été axées d'abord sur la femme et l'enfant. C'est maintenant qu'on est en train d'aller à la couverture universelle. D'accord. Donc, ce que je veux dire, c'est que vraiment, mettons l'accent sur les groupes cibles, mais on n'oublie pas également la population générale.
D'accord. Merci à vous, docteur. Nous avions deux docteurs avec nous, docteur Koulibaly Madina Konaté, qui est donc chef de division évaluation, planification, suivi et évaluation au programme national de lutte contre le paludisme. Docteur Diré était également avec nous, directeur adjoint du programme PSI. Merci à vous. Merci, monsieur. Merci, madame, pour votre disponibilité. Je suis Famoussa Sidibé. Salut. Djouara est à la régie vidéo, Mamadou Ouattara est à la technique, Ousmane Diadié Touré a réalisé cette émission. Nous vous disons à demain, bonsoir et très bon moment donc en notre compagnie.
grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Wamakaran.
Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Halud Mouni.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.
Le grand dialogue.